Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette rentrée des podcasts de rédaction de la Game Info. Bonjour à toi mon cher Mordren.
Salut, ça va depuis longtemps déjà?
Ça va, les partiels, bien,
hein? Ouais, tranquille.
Parce que je balance un peu, c'est un peu à cause de Monsieur Mordred qu'on n'a pas fait nos podcasts, hein, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, on va dire ça, oui.
C'est honteux, monsieur, c'est honteux.
Donc, c'est pas ce que vous faites, monsieur. C'est
Donc, messieurs, dames, on va commencer cette rentrée des podcasts avec Nintendo. Et oui, il paraîtrait que Nintendo a décidé de lancer un service online décent. Et donc, ça s'appelle le Nintendo Network. Alors, parle-nous-en, mon cher Mordren. Qu'est-ce que c'est le Nintendo Network?
Alors, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à raconter parce qu'on n'a eu qu'une annonce, en fait. Hein. Le truc n'a pas été lancé encore. Enfin, pour le moment, on ne l'a pas vu débouler. Ça concerne pour le moment la 3DS, bien évidemment. Ça concernera la Wii U très bientôt. Enfin, très bientôt, en 2012 en tout cas. Et donc le but, en fait, c'est de proposer évidemment les contenus téléchargeables que les éditeurs aiment tant, ainsi que la distribution dématérialisée de certains jeux, qui peut être intéressant pour les indépendants notamment. Et puis ça va introduire un truc qui est sympa quand même, c'est les comptes personnels pour la Wii U. Puisque c'est quelque chose qui a
été... fou.
Ouais, un truc de fou qu'on n'aurait jamais imaginé.
Et un vrai truc avec des cons, avec un email et tout,
ça m'étonnerait pas en tout cas, parce que en fait sur la 3DS, il y a pas de compte personnel. Si tu veux, tu peux avoir plein de Mi, mais il y a un compte par 3DS. Et tu peux pas brancher plusieurs comptes sur une même 3DS.
C'est la révolution, quoi. C'est...
Voilà. Enfin, c'est habituel du côté Nintendo. D'ailleurs, je te rappelle que la PS Vita, c'est sur la même branche, d'ailleurs. Ce qui nous a un petit peu plus fait tiquer, tous les deux, d'ailleurs. Pour le moment, ce qui va être ce qui va arriver le plus rapidement, ce sont les contenus téléchargeables. Ça va être mis en place dès la sortie de ce jeu de rythme qu'on avait vu au TGS qui s'appelle Theatrism Final Fantasy. Ça t'avait bien tapé dans l'œil d'ailleurs à ce moment.
Grave.
Avec donc a priori des contenus téléchargeables à acheter. Enfin, on
Super.
Imagine à acheter.
Évidemment, les contenus téléchargeables, c'est du plus important.
Oui, bien évidemment. Et puis,
surtout pour les éditeurs.
A priori, ce qu'ils essaient de pousser, c'est l'aspect communautaire du truc, avec notamment sur Mario Kart 7. Alors, c'est pas encore mis en place, mais on va pouvoir paramétrer les conditions de vos courses et puis regrouper ses amis de façon plus pratique. Mais pour le moment, on l'a pas vu en marche, donc on aimerait bien voir comment ça marche, parce que pour le moment, on a un petit peu des doutes.
Ils ont appelé comment déjà les codes amis?
Ils ont appelé ça un code communautaire.
C'est juste histoire de faire genre, tu vois.
Donc a priori, vous pourrez regrouper tous vos amis sous un même code communautaire pour vous retrouver. Bon. On attend de voir ce que ça donne en pratique pour vous dire exactement ce qu'on en pense, parce que pour le moment c'est juste un gros point d'interrogation. Et puis après c'est pas étonnant que Nintendo lance son network là pour le tester, à mon avis, sur 3DS, pour que il soit à peu près prêt pour la sortie de la Wii U en 2012, puisque on sait que la Wii U va devoir être connectée plus que la Wii. En tout cas, c'est difficile de faire moins.
Vu le retard qu'ils ont, il serait temps.
Voilà, donc c'est, à mon avis, c'est vraiment une vaste session de test pour la Wii U, et essayer d'avoir un réseau qui est à peu près potable, quoi.
Ok, ben, wait and see.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, nous allons enchaîner sur un jeu dont vous avez déjà parlé. Il s'agit d'un jeu indépendant, c'est Guns of Icarus Online. Mmh. Alors déjà, je voulais en parler pour faire un petit rectificatif, parce que j'avais dit que ce serait un MMO.
Oui.
En fait, j'avais été induit en erreur, parce que ça parlait d'exploration, d'univers, etc. Mais en fait, non, parce que cette partie-là, effectivement, vous pourriez explorer avec vos potes, mais ce sera du coopératif. Finalement, je trouve ça pas plus mal. Donc ça veut dire qu'il y aura pas d'abonnement, et si l'univers est bien foutu et qu'on peut explorer l'univers en coop, après tout, pourquoi pas.
Ouais.
En plus, donc il y aura un online, donc là un online qui a priori sera donc plus classique, avec des classes un peu à la Team Fortress, etc.
D'accord.
Alors mais Mais pourquoi je vous en parle cette semaine? C'est parce que ils ont lancé une levée de fonds sur un site qu'on appelle Quickstarter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Quickstarter, en fait, c'est un site qui permet aux indépendants de lever des fonds. Et en gros, l'idée, c'est que les indépendants donc, fixent un prix, enfin la somme qu'ils veulent récolter, quoi.
Ouais.
Et si l'objectif est atteint, la somme est reversée, sachant que bien sûr si l'objectif est atteint mais qu'il y a plus qui est récolté, voilà quoi, s'il y a 20 000 dollars, il y a 25 000 qui est versé au final, bah c'est les 25 000 qui sont versés, hein.
Mmh.
Et par contre, si l'objectif n'est pas atteint, bah les gens sont remboursés et il y a rien qui est versé, donc c'est un peu, c'est assez violent pour les studios, quoi.
Ouais, c'est un,
et,
ouais,
et là donc ils avaient lancé une levée de fonds pour de 10 000 dollars. Ce qui est quand même bon, c'est assez raisonnable vu la moyenne des projets qui est là-dessus. Et ils l'ont tout juste lancé là, ils ont déjà récolté 15 000 dollars. Au moment où on publiera ce podcast, il restera une vingtaine de jours à peu près. Donc voilà quoi, c'est pour vous dire le succès du truc. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. J'attends toujours autant ce jeu avec impatience, même si c'est pas MMO. Bref, affaire à suivre.
Ouais.
Je note tout de même que les gens, quand on leur demande de donner des sous, c'est pas forcément des sales pirates.
Ouais, c'est vrai.
Vous c'est savez vrai. Qu'à ce que je pense à Game Info. Voilà, les gens donnent quand on leur demande. Ensuite, nous allons enchaîner sur Super Mario, Super Mario 2D.
Et ouais. Oui, parce que Super Mario 3D Land a beau avoir été un énorme succès sur 3DS avec déjà plus de 5 millions de jeux vendus depuis novembre, Nintendo pense déjà à la suite et est en train de préparer en fait un nouveau Super Mario qui sera en 2D cette fois. Et il le prévoirait pour la prochaine année fiscale qui commence le 1er avril 2012 et qui termine le 31 mars 2013. Donc ce qui fait qu'on peut imaginer une sortie de ce nouveau Super Mario soit vers la fin de l'année 2012, soit vers le début 2013, parce que Super Mario 3D Land n'était pas vraiment un Super Mario dans le, comment dire, c'était pas un scrolling horizontal comme on a l'habitude d'en voir avec un Super Mario.
Ouais, enfin, en même temps, les Mario en scrolling horizontal, je veux dire, c'était plus tellement la norme. C'est-à-dire, je veux dire, il y a eu un épisode sur, oui, effectivement, mais
Les New Super Mario Bros. DS et Wii, ça, c'était des Super Mario comme on avait l'habitude d'en voir à l'époque.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'était plus l'exception que la règle, quoi, ces dernières années.
C'est vrai, on était plus parti sur des Mario 3D avec Mario Galaxy. Et Mario Galaxy 2, c'est vrai, mais a priori Nintendo a l'air vraiment de dissocier deux branches de ces Super Mario avec des Mario 2D old school, comme on pourrait dire. La seule différence c'est que maintenant tout est modélisé en 3D, même si c'est sur un plan 2D. Et les Mario 3D, donc avec 3D Land, Galaxy 1 et 2. Puis a priori ça a l'air d'être pas plus mal puisque à chaque fois ces Mario trouvent leur public. Et puis il faut dire qu'à chaque fois les jeux sont très bons, donc c'est pas étonnant. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui doutaient de l'investissement de Nintendo dans la 3DS et sa suite au niveau des jeux, ça a l'air d'être plutôt bien parti, enfin plutôt bien engagé avec un.
Alors après bon, à voir ce qu'il y aura comme nouveauté de gameplay, parce que bon, si c'est pour faire un comme les Mario à l'ancienne, mais rien de plus. Ça va être un peu limite. Hein.
En tout cas, croisons les doigts pour que le jeu soit beaucoup plus dur que le Super Mario 3D Land, dès le départ en tout cas.
Bah justement, on parlait de jeux de plateforme 2D. Bah écoute, on va en profiter pour parler de Rayman Origins.
Ouais.
Parce que Rayman Origins a été annoncé sur PC, n'est-ce pas ?
Mm-hmm.
Et ma foi, une bonne nouvelle pour nous autres PCistes.
Oui, c'est sûr. Pour le 29 mars 2012, donc il n'y a plus que deux mois à attendre. Et il faut dire que Ubisoft a envie de diversifier le plus les supports de Rayman Origins.
Vu les ventes,
c'est clair.
Bon choix. Après, en fait, ça fait un peu bon. Alors, on est un peu dans la merde là. Bon, va falloir qu'on le sorte sur PC, hein. Il y a pas le choix, les mecs là.
Non, mais c'était attendu, hein, qu'il y ait une version PC.
Par contre, une précision.
Oui.
J'ai lu beaucoup sur internet qu'il n'y aurait pas de DRM. Alors moi, écoutez, ceux qui disent ça, j'aimerais bien qu'ils me donnent leur source, parce que moi, personnellement, la seule source que j'ai à propos des DRM, je vais citer mot pour mot ce qu'a dit la personne sur Twitter. Yes, Rayman Origins PC should be available on all eShops including Steam, and no, it won't be include any complicated DRM. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc il dit que oui, il y aura Rayman Origins sera sur tous les sur les magasins en ligne incluant Steam, et que non, il n'y aura aucun DRM compliqué entre guillemets.
Voilà, donc le
Alors
mot
moi
intéressant dans cette phrase, c'est compliqué, hein, vous l'aurez compris.
voilà. Donc moi je suppute que certaines personnes aient fait des spéculations à partir de ça, mais moi quand on me dit qu'il n'y aura pas de DRM compliqué, ça veut dire qu'il y aura un DRM en tout cas. Déjà a priori. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi un DRM compliqué chez Ubisoft.
C'est ça.
J'adore le flou artistique, tu vois, c'est très. ça va être un peu le Kinder Surprise, tu vois.
On appelle un petit voile pudique jeté sur le DRM d'Ubisoft.
Bon. Vu l'expérience que j'ai eue avec Ubisoft sur From Dust, on nous disait que oui, non, non, il y aura juste un DRM, une activation. On s'est retrouvé avec un DRM où il fallait, il y avait un serveur de l'autre côté qui marchait une fois sur deux et que enfin, c'était très, très chiant. Donc moi, je serais vous, ami PCiste, attendez d'avoir des retours concrets. Si vraiment vous avez un problème avec les DRM. Attendez d'avoir un retour concret sur les DRM parce que bon, voilà quoi, c'est
Tu remarqueras qu'ils n'ont pas menti, hein, c'est les gens qui ont mal compris.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Il n'y aura
Voilà.
aucun DRM compliqué.
Et à noter que Rayman Origins va sortir sur 3DS et sur PlayStation Vita aussi. Voilà, donc quand on mange à tous les râteliers, autant le faire partout.
Ils vont y aller à fond.
Mais en même temps, le jeu est tellement bon que qu'il le mérite. Enfin, donc,
Alors, maintenant, je vais vous parler d'une petite chose que j'avais évoquée il y a un certain temps, n'est-ce pas? C'est à propos du cloud gaming. Cette magnifique chose qui, personnellement, ne me convainc pas, mais bon, ça, c'est une autre affaire, parce que Bouygues se lance dans le cloud gaming. Wouhou!
Génial.
Alors, bon, d'un côté, ça a l'air assez convaincant, parce que on va pas vous les citer, mais les éditeurs qui suivent, ils sont là, hein, il n'y a pas de souci, dès qu'il y a du pognon à se faire, il n'y a aucun problème, les
Avec
gros
leur
sont
gros
là.
chèque, ouais.
Moi, ce qui me gêne un peu dans cette affaire, je vous en ai parlé, c'est que oui, attends, oui, ça me rappelle un truc. Ils ont pas des, y a pas des box, tout ça là, des services internet.
Ici.
Ouais, voilà quoi. Il y a des gens qui sont abonnés chez Bouygues, quoi,
Ouais.
ils tiennent les tuyaux, quoi. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça me gêne vraiment qu'une boîte qui tient les tuyaux propose des services à côté, des services sur internet. Et des services en l'occurrence qui donc logiquement vont être en concurrence avec d'autres services comme comment il s'appelle déjà le service là
Live.
OnLive, voilà. Vous l'avez évoqué il y a quelques temps.
Ouais.
Si un de ces quatre ça rampe sur OnLive et que vous êtes chez Bouygues, vous y attendez pas, hein. C'est normal.
Ouais, c'est ça.
C'est enfin bref. En tout cas, bon, déjà ça dénote d'un certain intérêt qu'on pour les acteurs du secteur pour c'est clairement amené à se développer, mais
Ouais.
moi je trouve ça très inquiétant en tout cas que et mais pas que en général pas que pour ce qui touche le jeu vidéo, hein. Je veux dire
Ouais.
moi quand je vois qu'Orange a des parts dans Dailymotion, ça m'inquiète beaucoup personnellement, mais bon. Bon, wait and see.
On va voir comment ça va se développer avec le lancement pour pouvoir vraiment statuer sur ce qu'on peut donner comme importance au cloud gaming en France. Parce que pour le moment, le public n'a absolument pas répondu à cette annonce-là. Donc, je sais pas. Moi, j'attends de voir, hein, personnellement.
Alors, revenons une seconde sur Nintendo, s'il vous
Oui.
plaît, madame, parce que quand même, il y a eu une annonce assez importante, hein. C'est à propos de la Wii U. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Wii U, mon cher Mordren?
Ce qui se passe avec la Wii U, c'est qu'on sait maintenant que la Wii U va sortir avant la fin 2012. Même, c'est même plus clair que ça va sortir entre l'E3 et la fin d'année 2012. Donc pour ceux qui pensaient que ça serait plus vers la fin de l'année fiscale, donc en mars 2013, bah ça sera pas ça. Et moi, je suis assez content parce que mon pronostic, c'était vers Noël 2012. Donc, pour le moment, ça tient encore. Donc voilà. Donc ça, c'est, comment dire, c'est Nintendo qui a donné cette information à des journalistes de One Up. Et donc en confirmant que la machine sortirait entre le 3 et la fin d'année 2012. Donc pour le moment, on est bien calé sur le Noël en tout cas, enfin ça m'étonnerait pas. Donc voilà,
Alors,
c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui l'attendaient.
la question, juste pour revenir sur une news qu'on avait faite, c'était sur les consoles Sony Microsoft.
Oui.
Bon, finalement, pas grand-chose, je crois, au CES, hein,
Bah en
justement
tout
par
cas
Nintendo.
tout le monde pensait que la 360, enfin la 360,
Prochaine console de Microsoft serait
la
annoncée au
voilà,
CES. Bon,
mais pas du tout.
pas du tout. Il s'est rien passé.
Bah ils ont poussé leur Kinect comme d'habitude
Et
et
en
oui.
plus, du côté de Sony, ils ont même affirmé que non, rien n'est prévu, on est toujours parti sur notre cycle de 10 ans, ce qui
Ouais.
n'a rien à voir. Personnellement, j'y crois pas une seconde, mais bon.
Non, je pense que ça, c'est de l'intox.
Peut-être dans 2-3 ans, effectivement, mais 10 ans, à mon avis, il ne tiendra pas. Hein, c'est juste pas possible. Parce que je suis persuadé que Microsoft va dégainer
Oui.
et que ils vont pas attendre.
Ouais. Mais je crois que c'est Sony qui disait que ça serait pas avant 2013. Enfin, ça m'étonne pas. Et puis, après, Microsoft est vraiment en train de pousser son Kinect. Que ce soit, pour des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, c'est
Même
assez
sur
curieux.
PC, ça y est, il est compatible PC là et
C'est
tout.
ça.
Enfin bref.
Donc voilà. Bah, en tout cas, sur le CES, au niveau du jeu vidéo, il n'y a pas
Par
grand-chose.
la Wii U, il n'y avait rien quoi.
Et encore, la Wii U a présenté les mêmes choses qu'à l'E3 dernier, donc c'était pas vraiment intéressant, quoi. Voilà.
Donc en tout cas, la Wii U pour fin 2012, vivement, j'ai envie de dire.
Vivement l'E3 qu'on nous présente vraiment la Wii U. Voilà, j'ai que ça à dire.
D'ailleurs, on va faire un petit détour chez Sony, chez les concurrents. On va parler un peu de la PlayStation Vita.
Ouais.
Moment de silence. Tan, 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 tan.
Ouais.
Voilà. Après ce grand moment d'émotion, on va s'apitoyer un peu sur les ventes de la PlayStation Vita.
Ouais.
Ventes qui... Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, sont catastrophiques. Je crois que
Alors, en
c'est le
tout
mot.
cas, elles sont très décevantes.
Quand même, arriver à faire pire que le lancement de la 3DS, fallait le faire, quoi.
Ouais. Ouais. Elle est sortie le 17 décembre au Japon. Donc pour le moment, il n'y a que le Japon qui bénéficie de la PlayStation Vita, sauf les gros hardcore qui ont déjà commandé leur PlayStation Vita et là, ils l'ont fait importer. Bon, mis à part la première semaine de lancement, la PlayStation Vita était plutôt pas mal, dans les mêmes eaux que la 3DS.
Je rappelle, donc première semaine de lancement de la 3DS, c'était 375 000 exemplaires.
Ouais.
Première semaine de lancement de la PlayStation Vita, 390 97 000. Donc la PlayStation Vita est devant sur la première semaine.
Voilà. Et la deuxième semaine, patatras.
Ça commence à baisser déjà. Donc deuxième semaine, 580 000 pour la 3DS, 440 000 pour la PlayStation Vita. Et
Voilà.
après, ça descend aux enfers. Troisième semaine, 680 000, 482. Quatrième semaine, 742, 516.
Voilà. Donc, en fait, et ce qui est impressionnant, c'est que sur la dernière semaine là dont on parle, donc sur la dernière semaine de janvier, 15 000 exemplaires de Vita ont été vendus.
Elle se vend moins bien que la PSP, je crois, il me semble encore.
C'est alarmant parce que la PSP est toujours devant, à chaque fois, systématiquement devant la PlayStation Vita, et les revendeurs japonais sont obligés de donner des ristournes à leurs acheteurs pour vendre leur PlayStation Vita. Donc c'est assez problématique quand même pour une nouvelle console. Même la 3DS, qui pourtant on l'a répété et répété, qui selon certains faisait un four, la PlayStation Vita est derrière.
Moi, clairement, à l'époque, moi, les chiffres de lancement de la 3DS, déjà, à l'époque, ils m'inquiétaient, quoi.
Ouais.
Et là, c'est peu de vous dire que je m'inquiète pour la PlayStation Vita, en tout cas au Japon.
Mais disons
Mais
que la
bon.
3DS, sur ses cinq premières semaines de lancement, elle était pas mal. C'est après, elle a moins vendu que la PSP. Et c'est là que ça a commencé à être inquiétant. Et d'où la réaction de Nintendo avec la baisse de prix. Est-ce que la PlayStation Vita peut baisser de prix? C'est la question qu'on peut se poser.
Surtout jusqu'à dedans,
Voilà.
le pognon qu'ils vont perdre là-dessus, c'est assez impressionnant, quoi.
Donc,
Et
moi j'ai des doutes sur une baisse de prix. Peut-être que les revendeurs vont essayer de grappiller sur leur marge, et encore ça m'étonnerait, pour en vendre plus. Mais voilà, c'est à mon avis c'est la seule chose qui peut être faite à
non,
court
mais
terme.
de toute façon, bon, je veux dire, y a pas de secret. La PS Vita, la killer app de lancement, c'est
Uncharted.
Uncharted. Uncharted au Japon, voilà quoi. C'est pas.
C'est bien, mais pas top quoi.
C'est une licence occidentale. C'est le succès qu'ont les licences occidentales au Japon, même si c'est Uncharted.
C'est vrai.
Voilà quoi. C'est il faut un Monster Hunter. Faut je sais pas quoi. Faut un gros machin quoi. Et là ils l'ont pas quoi. Clairement.
Là ils l'ont pas. C'est vrai. Mais
et en,
faut rappeler
en plus,
que la 3DS n'avait pas de killer app. Hein.
Oui ouais. Non mais oui mais il y a des histoires de rétrocompatibilité aussi.
Ouais.
S'il y avait la rétrocompatibilité avec la PSP, je suis pas sûr que ça serait la même.
C'est clair, c'est clair. C'est... Non, en même temps, rétrocompatibilité, si tu craches sur l'UMD, c'est difficile, quoi. Donc voilà. Maintenant, la rétrocompatibilité pour Sony, c'est venez acheter mes Final Fantasy sur mon PSN. Venez. c'est
ouais,
ça,
mais les gens sont pas des pigeons non plus, quoi. Enfin bref.
Voilà.
Dans tous les cas, on espère que ça va s'améliorer pour elle, mais bon, si le catalogue suit bas, ça va être compliqué. Bon, a priori, donc par contre, en Occident, ça devrait marcher parce que Uncharted quand même, c'est si ça marche pas avec Uncharted, je veux dire, c'est que ça va être assez tendu, quoi, parce que d'autres licences, j'en vois pas trop, quoi, par Uncharted.
Killzone, Résistance, pour moi c'est pas.
Killzone peut-être, oui.
Killzone peut-être, ouais. Et God of War peut-être.
Bref.
Ouais. Donc on verra. En tout cas, moi j'imagine qu'en France, vu que nous sommes une terre de PlayStation, la PlayStation Vita devrait avoir un destin un petit peu plus doré quand même.
Attends, la PSP, elle a pas eu un destin doré chez nous, hein, je suis désolé. T'es optimiste là.
Je m'avance un peu, t'as raison.
Ouais. Maintenant, on passe à toute autre chose. On va parler de Blizzard.
Ouais.
Et là, ça va être un drame chez les fans de Blizzard. Pas de BlizzCon en 2012.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Alors, oui, c'est Blizzard qui a annoncé ça. Il y aura pas de BlizzCon en 2012, sachant que la BlizzCon en 2011 avait été extrêmement chargée. Je sais pas si tu t'en rappelles. Mais avec la révélation de la nouvelle extension de WoW, Diablo 3, l'extension de StarCraft 2, il y avait tout ça. Et donc pas de BlizzCon en 2012, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire autre chose?
Ça veut dire que voilà, ils ont rien à montrer pour le moment quoi, tout simplement.
Ouais.
A priori donc peut-être que ça veut dire que justement, il y a des chances que Diablo 3 sorte cette année.
Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de déduire de ça en fait.
D'un autre côté, Diablo 3, récemment, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu une grosse update, ils ont re-tout changé encore dans le jeu. Mm-hmm. Et du coup, ça peut certains dire que peut-être que finalement, c'était pas pour 2012 en fait. Donc, je veux pas trop casser tes espoirs, mais.
Est-ce que ça voudrait pas dire, s'il n'y a pas de BlizzCon en 2012, ça voudrait dire que Blizzard aurait dans l'idée de sortir Diablo 3 et peut-être même, soyons fous, l'extension de StarCraft 2 en 2012
sous les retours
au moins la bêta.
Non, mais StarCraft 2, la bêta peut-être, mais le jeu, tu rêves à mon avis. Mm-hmm. Tous les retours qu'il y a eu jusqu'à maintenant sur Heart of the Swarm, c'est ça
Oui.
Et bien... tous les retours qu'il y a jusqu'à maintenant, c'est 2013 au plus tôt, quoi. Donc,
peut-être que la bêta sortira fin 2012.
Ouais.
Enfin bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de déduire de cette annonce de pas de BlizzCon en 2012, parce que peut-être qu'ils sont en train de finaliser certaines choses sur leur prochain jeu, et peut-être qu'ils sont en train de se concentrer sur leur nouveau projet de MMO.
Mais tout simplement ils ont rien annoncé quoi. Moi c'est ça, hein. C'est
ou peut-être rien.
Ils ont rien annoncé. Je veux dire là ils sont entre deux eaux, ils sont en train de finir de bosser sur StarCraft 2, ils sont en train de finir de bosser sur Diablo 3, ils sont en train de finir de bosser sur la prochaine extension de WoW. Il y a leur prochain jeu qui est dans les tuyaux, mais bon, là, a priori, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont commencé à bosser dessus, donc
Oui.
on sait que bizarre, quand ils pressentent un truc, c'est un peu comme Valve, c'est voilà quoi, il y a du concret quoi.
Ouais, le truc est pas assez avancé en tout cas pour qu'il soit
Que
montré, ça c'est sûr.
moi, je parierais pas sur le forcément sur le signe que oui, Diablo 3 va sortir cette année quoi. Si c'est
Non, non,
ça.
ouais. En tout cas, on peut l'espérer. Bon, pour vous consoler, Blizzard va organiser un tournoi de StarCraft 2 en Asie.
Ouais.
Ça va, qui va s'appeler le BattleNet World Championship. Voilà, c'était ça qu'il fallait dire pour conclure. Voilà.
D'ailleurs, à propos de StarCraft 2, on va parler un petit peu de nos amis Pompétus, vite fait. Nos amis Pompétus ont organisé enfin, il y a un tour, ils participent à un tournoi qui s'appelle l'Iron Squid, je crois.
Oui, non, c'est eux qui le
Ils l'organisent.
montaient, hein. Ouais.
Ouais, c'est eux qui l'ont monté. Bah, bravo à eux.
Franchement.
En plus, c'est un prize pool, je crois, pour le rappel, le prize pool, donc
Voilà.
c'est ce que vont gagner les joueurs à la fin, quoi. C'est 20 000 dollars, je crois. Donc, pour un tournoi français, bravo.
C'est impressionnant. Et il y a beaucoup de Coréens.
Il y a beaucoup de Coréens, c'est ça. Ils ont vraiment attiré du monde. Il n'y a pas que les Coréens, quoi. Il y a des Coréens, il y a des Américains, il y a des Européens et des gros. Et
Game, ça envoie du lourd.
félicitations à Pompétude, en tout cas, parce que faut monter un truc comme ça en France. En plus, je sais, c'est compliqué de faire des trucs en France. Bravo. Autre chose, une bonne nouvelle pour nos amis joueurs sur 360. On a une date pour The Witcher 2. The Witcher 2 arrivera le 17 avril.
Oui, le 17 avril, c'est bon ça, non?
Oui, et en plus, je crois qu'il y aura un contenu supplémentaire.
La première version, enfin la version de base s'appelle la Enhanced Edition. Donc a
Ouais.
priori, elle devrait avoir des petites qualités en plus sur
Bah,
360.
du même nom que la première Enhanced qu'il y avait eu pour The Witcher 1, qui rajoutait une masse de contenu, c'est vraiment très impressionnant. Pour les joueurs PC, rassurez-vous, les contenus de cette Enhanced Edition sera disponible gratuitement sur PC, donc pas de jaloux.
Bah très bien. Bon, en même temps on est habitué avec les joueurs PC.
Bah, non, c'est pas qu'on est habitué avec les joueurs PC, on est habitué avec CD Projekt.
Voilà, c'est ça.
C'est des projets qui une boîte très respectueuse des joueurs PC
Ils ont
et
raison en même temps.
bah faut choisir ses clients quoi.
Bah c'est sûr.
Ils ont compris que contrairement à certains
Voilà. Et il
voilà.
y aura une deuxième version du jeu sur 360 aussi qui s'appellera la Dark Edition, vendue 80 € avec une OST, deux DVD dont un de making of. Et puis des petits goodies par-ci par-là, voilà.
Bon, par
Belle boîte.
contre, juste une petite critique, mais c'est pas tellement par rapport à l'édition N, c'est par rapport aux règles de Microsoft. Leur putain de bande verte là, ça gâche les jaquettes, autant la version collector était super classe sur PC, autant celle-là, la bande verte, au secours quoi. Enfin bref, on va finir sur Kid Icarus. Je crois que tu as une annonce à...
Qui dit Carus Uprising, bah déjà on a la date Europe, 23 mars, donc une semaine avant The Witcher 2 sur 360. Et à savoir aussi que le jeu sera disponible avec le Circle Pad. Donc le Circle Pad, c'est le deuxième stick pour la 3DS,
ouais,
qui est déjà commercialisé avec Resident Evil Révélation, qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Et pourquoi Kid Icarus est disponible avec le deuxième stick, c'est que Kid Icarus était très gênant pour les gauchers, parce que en fait, c'est pour visualiser un petit peu la chose, le joueur déplace Pete avec le stick analogique gauche et
ouais.
Dirige en fait son feu, parce que c'est un shoot 'em up, hein, Kid Icarus Uprising, dirige le feu en fait en bougeant le stylet sur l'écran tactile. Déjà rien que pour un droitier, c'est assez peu confortable, il faut l'avouer. Alors pour un gaucher, c'est encore pire. Donc il y avait une espèce de lobby en fait pour un deuxième stick dès le lancement en fait de la 3DS, avec les démos sur Kid Icarus, en disant que les gauchers ne pourraient pas jouer à Kid Icarus. Donc voilà, c'était sans doute une des choses qui ont poussé Nintendo à revoir un petit peu sa copie au niveau des sticks. Enfin, pas que ça bien évidemment, hein, mais voilà.
Donc, dans ce cas, bonne nouvelle pour nos amis gauchers.
C'est ça, il ne faut pas les oublier non plus.
Et bien voilà, c'est fini pour l'actualité cette semaine. On va passer à notre jeu du moment, et ce jeu-là, c'est Dust Force. Dust Force, pour vous présenter vite fait ce que c'est un jeu de plateforme, mais c'est un jeu de plateforme très spécial, parce que c'est le seul jeu de plateforme au monde où on joue un balayeur.
Ah oui, d'accord.
Pour vous présenter un peu le concept, donc ça fait penser un peu à un Super Meat Boy, auquel on aura ajouté du Time Attack, un peu à la Sonic. Et dans lequel, en fait, pour finir parfaitement un niveau, il faut nettoyer toute la poussière qu'il y a dans le niveau. Alors, l'idée, en fait, c'est que, bon, t'as des déchets qui sont répartis dans le niveau. Alors, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être de la poussière, etc. Enfin, bref, peu importe.
Ouais.
Et donc, il va falloir, pour obtenir le rang maximum, parce qu'en fait, t'as deux notes. Mm-hmm. T'as une note pour le temps et tu as une note pour le nettoyage. Et donc, pour passer au niveau suivant, et c'est là où le jeu va rapidement devenir très difficile, mais je vous en parlerai plus tard, c'est que pour passer au niveau suivant, il faut obtenir une clé, et cette clé ne peut s'obtenir que si tu as le rang WS. Et donc, WS, c'est le rang parfait, quoi. C'est vraiment nickel, t'as réussi ton niveau. Voilà, quoi. C'est nickel chrome. Et donc, l'idée, c'est que, un peu comme dans Super Meat Boy, vous allez, voilà, quoi. C'est des niveaux très complexes où vous allez sauter sur les murs, vous allez, un peu à la Yamakasi, tu vois, ils vont courir sur les murs et tout, tac, 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 vous allez sauter partout. Mmh. Et en même temps, il va falloir nettoyer la poussière. Va y avoir genre des feuilles volantes, tu vois, quand tu vas faire un saut, il va falloir les taper au passage. Mais là où Dust Force devient beaucoup plus compliqué par rapport à Super Meat Boy déjà, c'est que il y a des coups. Alors je sais pas si toi tu as joué à Super Meat Boy un peu ou pas.
Oui, oui, oui.
Je sais pas si tu te rappelles, donc dans Super Meat Boy, finalement le gameplay est assez simple. Mm. Je veux dire, c'est t'as le saut,
tu cours et tu sautes.
Tu cours et tu sautes.
Ouais.
Non, là dans Dust Force c'est pas ça. C'est tu cours, tu sautes. T'as le double saut, mm. t'as la frappe faible, la frappe forte.
Ouais.
Sachant qu'en fonction de la manière dont tu orientes ta frappe, c'est pas du tout pareil. Bref, c'est finalement t'as plus de commandes et du coup, moi je sais qu'il y en a qui jouent au clavier, mais moi, alors autant Super Meat Boy il joue au clavier, aucun problème.
Mm.
Autant Dust Force au clavier déjà, j'ai tout de suite branché ma manette. c'est juste pas possible pour moi jouer au clavier à ça, c'est
d'accord.
Impossible. Mmh. Et parce que finalement t'as plein d'actions et en plus c'est super rapide, faut être au taquet quoi, c'est mmh. Il faut avoir des réflexes de malade mentaux.
D'accord.
Et alors le truc c'est que au début du jeu le début du jeu est assez simple finalement, c'est bon pour en commencer une ou deux fois pour atteindre le rang S, mais bon c'est pas
ouais.
c'est pas frustrant. Mais le problème c'est que pourquoi Pour moi, Super Meat Boy n'est pas un jeu frustrant parce que finalement les niveaux sont assez courts
mmh.
et voilà quoi. Quand tu rates, tu peux t'en prendre qu'à toi-même.
Ouais. Parce que tu sais que tu peux y arriver en fait.
Dust Force, j'aurais deux critiques à faire. Déjà, finalement, par rapport à Super Meat Boy, les niveaux sont assez longs.
Mmh.
Je veux dire, t'as un niveau, ça. En général, en moyenne, c'est à peu près 1 minute 20, 1 minute 30.
Ouais.
Enfin, là où j'en suis, hein, parce que je n'ai pas fini le jeu, je précise, il est beaucoup trop dur. Je pensais que je finirais un jour, mais pour moi, c'est exclu. Donc déjà, les niveaux sont assez longs. 1 minute 30, je veux dire, il me semble pas qu'il y ait un niveau de Super Meat Boy qui soit aussi long.
Il y aura peut-être vers la fin, mais sinon, le reste, c'est genre 30 secondes, 45 secondes. Quoi.
Voilà. Et en plus, bon... Le truc, c'est que, donc, ils ont mis des checkpoints, mais finalement, les checkpoints, ils servent à rien, vu que, pour avoir le perfect, de toute façon, tu es obligé de recommencer depuis le début, quoi. Je veux dire, si tu crèves, t'auras jamais ton rang S et t'auras pas la clé pour débloquer le niveau suivant, etc.
Ouais.
Donc,
bref, autant recommencer quand tu crèves, quoi.
Voilà, autant tout recommencer. Bon, d'ailleurs, pas folle la guêpe, ils ont mis une option, tu vois, pour automatiquement, dans les menus, pour automatiquement recommencer depuis le début. Hein.
Non, d'accord, ouais.
Déjà ça, et le truc, c'est que comme il y a beaucoup plus d'actions, ça complique tout de suite le truc, quoi. Je veux dire, ouais, Super Meat Boy, finalement, c'est très simple, tu choisis tes directions, tu sautes, et voilà. Là, Death Force, c'est... je saute quand je suis en l'air. Alors soit je fais le double saut parce que soit je fais un saut, soit un peu à la Sonic, je vais faire un dash pour aller plus loin, etc. D'ailleurs, c'est un jeu, moi, il me fait énormément penser à Sonic, une espèce de Sonic avec certaines mécaniques de Sonic, des Sonic 3D récents avec les dash, etc. Mais en beaucoup plus complexe. Et du coup, le jeu est très 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 difficile. Ça, je vous préviens, si vous voulez jouer à ce jeu-là, il va falloir vous accrocher. D'ailleurs, il me fait d'autant plus penser à Sonic, ce jeu, qu'ils ont repris une très bonne idée de Sonic Generations dont je vous ai parlé. C'est qu'en fait, le hub qui va servir à relier tous les niveaux est en fait un niveau en lui-même.
Ah oui.
Et alors, l'un des trucs qui permet de pondérer un peu le fait qu'il faut absolument une clé pour passer au niveau suivant, c'est que le hub de départ part dans plusieurs directions en fait. Donc un peu à la Metroid, tu vois, tu vas avoir en fait tu vas avoir une partie du hub qui va ça va ressembler un peu à un manoir hanté, etc. T'as une partie du hub, ça va être la nature, enfin bref, tu vois un peu le délire.
Ouais, ouais.
Et donc l'idée c'est que tu vas pouvoir au début partir dans plusieurs directions pour faire les niveaux les plus faciles au départ et ensuite au fur et à mesure faire les niveaux les plus difficiles.
Donc déjà, tu peux commencer par les plus difficiles en fait.
Oui, tu peux directement accéder au. Enfin non, c'est que pour accéder au plus difficile, de toute façon, tu vas avoir à débloquer les clés.
Ouais.
Mais le truc, c'est que si tu fais un seul hub d'un coup, vu qu'il y en a plusieurs, tu vas rapidement arriver sur des niveaux assez corsés, quoi.
D'accord.
Et bon, t'es pas obligé. Voilà, le truc, c'est que t'es pas obligé déjà d'une part, donc t'es pas obligé de faire tous les niveaux les plus difficiles d'un coup. J'ai déjà ça, donc c'est histoire de relativiser un peu. Et d'autre part, ils ont eu une idée, mais alors c'est une idée excellente, c'est que à chaque fois que tu termines un niveau, tu as la liste des temps qui s'affiche à côté, parce qu'il y a le classement mondial, hein, que je précise,
ouais,
qui affiche à côté. Mais la spécificité du jeu, pour chaque temps, tu vas pouvoir visionner une vidéo qui correspond à ce temps-là.
D'accord.
C'est-à-dire que, un peu comme dans StarCraft 2, tu vois les replays, bah tu vas pouvoir mater un replay, le replay du mec. Et ça,
c'est
mine
bon,
de
ça.
Rien, quand tu veux battre un record, ou en tout cas obtenir le rang WS, ça simplifie grandement les choses, parce que tu vois comment les gars ont réussi avant toi, quoi. Finalement, ils ont un peu fait le taf avant toi, tu vois comment ils ont fait, etc. Bon, après...
ça peut t'aider, quoi.
Ça t'aide pour les niveaux faciles, on va dire pour les niveaux les plus difficiles. Les gars sont tellement des extraterrestres que de toute façon, t'es là, oui, je gratte la tête un peu dépité, tu vois. Et je sais pas trop comment tu vas te démerder, etc. Enfin bref. D'une manière générale, on va passer un peu sur tout ce qui est direction artistique, etc. Le jeu est très joli. C'est vraiment, c'est graphisme très agréable, c'est très mignon.
Ouais, c'est génial.
L'animation est excellente, franchement, ils ont, genre t'as une animation, tu vois, en fait t'as une barre de combo, tu vois, et quand elle est remplie, tu détruis tous les, toute la poussière qui est autour, quoi. Et là, ils ont fait un peu un truc à la Dragon Ball, un bruitage à la Dragon Ball Z, tu vois, où le mec il disparaît, tac tac tac, t'as tout qui, il tape toute la poussière en même temps. C'est vraiment, l'animation déchire. La musique, bon, elle est pas extraordinaire, mais elle fait très bien son taf. Bref, le seul petit reproche aussi au niveau de l'optimisation du jeu, ça arrive qu'il y ait des ralentissements. Je sais pas d'où ça vient. Bon, a priori, ils vont sortir des patchs, etc., où ça va être corrigé.
Ouais.
Mais bon, quand même, je veux dire, pour un jeu en 2D, c'est un peu, voilà, quoi, c'est un peu abusé, je trouve, quoi. Le jeu est joli, mais bon, c'est pas non plus, faut arrêter, quoi. C'est pas le plus beau jeu du monde. Bref.
D'accord.
Dans tous les cas, je vous avertis, c'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains. Super Meat Boy est un jeu facile à côté.
D'accord, mais en tout cas,
parce que Super
Meat Boy, beaucoup de nuits d'addiction, quoi.
Voilà, Super Meat Boy, j'ai retourné, je veux dire, c'est un jeu que j'ai fait dans tous les sens. Mais alors, de cette force, je vous assure, je ne sais pas si je vais réussir à le finir. C'est un des premiers jeux où je me questionne vraiment, mais est-ce que je vais arriver à finir ce jeu? Juste, la difficulté est monstrueuse. Et mon cher Morel, je te montrerai une vidéo du record mondial d'un des derniers niveaux du jeu, tu vas voir, tu vas comprendre ta douleur.
Avec plaisir. Et donc c'est disponible sur Steam, sur XBLA, sur PSN à 10€ à peu près.
Ouais. Et bon, si vous aimez les challenges, il y vaut largement. Par contre, c'est clair, il faut aimer le challenge, il faut aimer la plateforme. Mais si vous aimez ça. Ah, vous allez en avoir pour votre argent, là. Vous allez bien souffrir.
Bon, bah écoute, ça donne envie. Hein.
Ouais. Bref, c'en est fini pour nos jeux cette semaine. Eh bien, mon cher Morel, c'est à toi pour le point culture.
Voilà, tu peux t'endormir maintenant. C'est à moi de parler. Mais je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'une série.
Française
Ouais, une série française que j'ai découvert il y a pas longtemps en DVD. C'est Braco. Qui a été diffusé la première fois sur Canal+. Ça a commencé en octobre 2009. Et c'est une série policière qui met en scène en fait quatre flics des Hauts-de-Seine, des flics qui sont un petit peu borderline, comme on dit, comme on a l'habitude de dire maintenant, qui en fait ils sont témoins du suicide en fait de leur ami, de leur collègue commissaire. Pour une raison, en fait, il est accusé par la police des polices d'avoir commis un crime qu'il n'a pas commis, en fait. Et donc, il se suicide, et à partir de ce moment-là, les quatre policiers vont véritablement descendre aux enfers, en fait, parce qu'ils vont essayer d'élucider l'affaire et de laver l'honneur de leur ami. Alors, je spoile pas du tout, hein, c'est dans les deux premières minutes de la série, donc vous en faites pas. Et donc, en fait, ils vont essayer d'élucider cette affaire et de comprendre comment il a été piégé, en fait. Et donc, en fait, pour faire ça, ils vont utiliser des méthodes qui sont très, très tendancieuses. Et donc,
Genre.
du genre, bah, si tu veux, c'est assez difficile de dire ça sans spoiler, mais ils vont
Ouais.
passer, en fait, la ligne jaune, en fait, entre le bon flic,
On va dire que ça s'inspire des affaires récentes qu'il y a eu ou
et le voyou, quoi. Enfin,
ouais.
si tu veux, ils sont toujours à naviguer entre le flic et le voyou, toujours en étant dans l'idée qu'ils vont faire le bien, mais en fait, ils vont utiliser des méthodes qui sont plus celles de brigands que des méthodes de flics, quoi. Et donc, c'est une série qui est franchement, qui a vraiment du punch, en fait. Alors moi, j'ai vu que la saison 1, hein, parce que n'étant pas plein aux as, je n'ai pas d'abonnement Canal+.
Question, sachant moi, si vous, moi les séries françaises, je veux dire, à part Kaamelott, j'ai une sainte horreur des séries françaises, quoi,
Je suis à peu près comme toi, hein.
c'est pas du tout dans mon délire, quoi. Alors est-ce que pour les gens comme moi qui vraiment sont pas du tout qui ont pas du tout d'affinité avec les séries françaises, est-ce que tu recommandes
Alors,
aux gars comme moi qui aimaient un peu les séries américaines, etc.
très personnellement, moi, j'ai toujours été beaucoup plus série américaine que série française, encore plus pour ce qui est des séries policières. Et donc, en gros, moi, ce qui m'a fait regarder les 8 épisodes de la série, chaque épisode fait 52 minutes, en fait. Ce qui m'a fait rester, en fait, c'est la profondeur des personnages. En fait, il y a 4 personnages principaux. Comment dire, c'est un univers qui est très sombre et qui n'hésite pas à utiliser la violence, mais tu vois, c'est pas comme des séries de HBO qui font dans le sexy juste pour avoir une scène de nu dans un épisode, quoi.
Tu fais quoi? Tu fais référence à quelle série là, mon cher Morgan?
À peu près toutes les séries de HBO, si tu regardes Game of Thrones ou les autres.
Bon, Game of Thrones en même temps, je veux dire, ils ont fait soft par rapport au roman, hein,
Oui,
donc.
non, mais il y en a qui sont, bon, plus ou moins nécessaires, quoi.
Dire,
Bref.
Game of Thrones, les gamins ils sont censés avoir 13 ans, ils sont censés avoir 13 ans. Ils ont pas du tout la gueule de gamin de 13 ans. Enfin bref,
Et donc,
c'est
en gros, si tu
grave.
veux, c'est pour une fois, on a une série française qui est sombre, qui est violente, et qui est mature, et c'est
Mais attention, est-ce que c'est quand tu dis mature, est-ce que c'est mature adolescent?
Non.
Ouais, je suis mature, tu vois, hein.
Non.
C'est du sang,
Non, c'est vraiment non, c'est mature adulte.
hein.
La série, elle est interdite aux moins de 12 ans. Bon, ça veut peut-être pas dire grand-chose,
Pas
mais
grand-chose.
ça veut pas dire grand-chose. Mais si tu veux, il y a vraiment une ambiance qui est propre à cette série et que j'ai pas vu autre part, quoi. Et c'est moi personnellement, je vous la conseille. Alors, ça prend pas beaucoup de temps de la voir. Vous pouvez la trouver à pas grand chose en DVD. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le scénario, en fait, est d'Olivier Marchal, qui est aussi réalisateur des quatre premiers épisodes. Et lui, en fait, connaît très très bien l'univers de la police, puisqu'il a été flic dans la police judiciaire. Et disons qu'en fait, il révèle un petit peu des choses. Enfin, comment dire, je vais pas dire que c'est sa biographie, hein, mais disons qu'il y a des choses qui font vrai, quoi. Il y a des choses qui font bien évidemment très romancées et très séries télé, mais il y a une manière, en fait, d'exercer le métier de flic qui n'est pas du tout la même que ce qu'on peut voir dans les autres pauvres séries policières qu'on a, nous, quoi.
Tu veux dire, c'est pas des flics parfaits, sans peur, sans
Voilà, ça
reproche.
c'est. Alors, c'est pas non plus le flic ripou comme on a pu en voir dans les films qui parodient ça.
Ouais.
C'est le flic qui sait ce qu'il doit faire. Un flic qui est piégé aussi, parce que les flics qu'on voit dans Braco sont vraiment piégés. Ils sont dans des situations qui sont presque inextricables. Tu sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. et c'est ce qui donne le suspense en fait. Donc c'est des flics qui sont vraiment qui veulent faire le bien, mais qui n'ont pas d'autre manière de le faire que par des façons qui sont très très tendancieuses. Et donc pour le coup, c'est pas une série qui est blanche ou noire, c'est une série qui est vraiment dans le gris. Et ça passe en fait en nuances de gris clair, gris foncé selon les épisodes. Et moi personnellement, je vous la conseille parce que Olivier Marshall, il a aussi fait des films, et je l'ai jamais trouvé aussi bon en réalisation que dans Braco en fait. Donc c'est si je vous conseille une des choses qu'a fait Olivier Marshall, c'est vraiment Braco plus que ses films en fait. Donc voilà, moi c'est un petit peu un coup de cœur que j'ai eu. Alors faut être accroché quand même hein, pour regarder Braco. Si vous aimez pas les séries policières, ou si vous êtes un petit peu frileux par rapport à la violence, c'est peut-être pas la peine. Mais c'est vraiment une série qui vaut le coup. En tout cas, moi je vous la conseille et j'ai hâte de voir la saison 2 quand elle sortira en DVD. Voilà, voilà.
Eh bien voilà, c'en est tout pour cette semaine. Rendez-vous, on l'espère, on n'espère pas, mon cher Mordren, hein, la semaine prochaine.
Ouais, croisons les doigts.
Sur toi.
Ne sois pas malade. Hein.
Allez, à la prochaine.
Salut à tous.